on s'en va
dans Matthieu au chapitre 19. Ah, j'aime tellement l'évangile de Matthieu. Là, j'ai peur de poser la question, là. Vous, est-ce que vous aimez notre série dans Matthieu? Oh, merci, vous m'encouragez. Non, mais des fois, non, mais c'est une arme à deux tranchants. Les séries à développement explicatif, en anglais, ils appellent ça expository preaching, verset par verset, c'est super bien, ça nous amène à voir toutes les choses. Mais des fois, ça peut être laborieux, parce qu'il y a des passages plus... Mais ce qui est fun avec un évangile comme Matthieu, il y a tout le temps, on est tout le temps dans l'action où on entend Jésus parler, puis tout ça, puis... Moi, personnellement, tu sais, mes deux évangiles préférés, c'est Matthieu puis Jean, là. J'aime beaucoup Matthieu parce que il y a beaucoup de choses qu'on voit là-dedans que, tu sais, c'est comme, moi, c'est la première chose que j'ai lue en lisant la Bible, c'est l'évangile de Matthieu. Fait que, tu sais, je reviens comme à mon premier amour, là, tu sais, puis j'ai, tu sais, ça a vraiment une valeur spéciale. Puis là, on est rendu au chapitre 19, puis on va lire les versets 1 à 15. C'est ce qu'on considère aujourd'hui. Des choses bien importantes, vous allez voir. Alors, dans Matthieu 19, au verset 1, on peut lire, « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? » Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Et on continue verset 13. Alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Ce passage, je crois, illustre ce qu'on voit ailleurs dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans Jacques, chapitre 2, verset 13, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Voici pourquoi je crois que ça a le rapport, parce qu'on voit beaucoup de relations. Il y a le domaine du mariage, le domaine du célibat et celui de l'enfance, et on va explorer ça ensemble. Mais je crois que le passage qu'on a sous les yeux et qu'on vient juste de lire... renferme une leçon précieuse et importante, c'est-à-dire que ça donne suite à ce qu'on voit le verset 35. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Puis là, Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, passe de ce thème-là du pardon qu'on a vu la semaine passée, puis là, il arrive vraiment... C'est pas des choses qui se suivent immédiatement dans la vie de Jésus, mais Matthieu les a placées comme ça. Parce que je pense que c'est un endroit, spécialement celui ici, le mariage avec lequel ça commence, puis ensuite on a les autres domaines, où est-ce que ce pardon, cette disposition est tellement importante. Et d'ailleurs, le titre de mon message, c'est « La miséricorde qui triomphe du jugement », comme je viens de le lire dans Jacques. C'est-à-dire que je pense qu'on a été fort comme chrétiens en général. Ici, on a des gens qui viennent de différentes églises. Je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les églises, mais je parle pour la nôtre puis ceux que je connais. En général, on était fort sur la vérité, le jugement, et faible sur l'amour et la miséricorde. J'espère que je me trompe pour les autres églises que je n'ai pas toutes visitées. Mais malheureusement, c'est ce que j'ai observé à travers mes années de vie chrétienne. Et c'est une des bonnes choses que Dieu fait à travers ce qu'on a vécu. Pourquoi? Dieu nous envoie des personnes brisées, des personnes que la vie n'est pas toute idéale, elle est plutôt croche. Puis on n'était pas prêt pour ça avant, honte à nous. Mais là, Dieu nous envoie des gens comme ça parce que c'est le Dieu qui allait vers les gens comme ça. Puis s'il les envoie, c'est un bon signe. Et donc, j'aimerais juste, c'est ça, souligner l'importance ici du lien que Matthieu, dans la façon qu'il a structuré son évangile, il termine le chapitre 18, verset 35, avec l'idée du pardon de tout son cœur. Et je pense qu'il y a un lien direct avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec ce qu'on va considérer dans le début du chapitre 19, c'est-à-dire l'importance que ce pardon-là a dans les relations. Parce que ce qu'on va voir, vous allez voir, il y a des choses, beaucoup, c'est ça rapport avec les relations. Dans les chapitres qu'on a, le chapitre qu'on a considéré la semaine dernière, le pardon était considéré de façon horizontale, n'est-ce pas? Les uns envers les autres, ça dit si on pardonne pas notre frère de tout notre cœur. Mais tout ça était à la lumière, vous rappelez-vous, puis on l'avait vu à la lumière du vertical, à cause qu'on a été pardonné. Hein, l'idée de la parabole, celui qui avait une grosse dette, il a été pardonné à cause de ça. La petite dette que quelqu'un peut avoir, il la pardonne, mais c'est l'image de le pardon qu'on a par Jésus-Christ de tous nos péchés. À cause de ça, ça nous dispose à pardonner les autres, OK? Je révise un peu de ce qu'on a vu de la semaine dernière. Mais tout ça, c'est pas mis de côté, là. Ça nous amène à ce qu'on considère dans notre message aujourd'hui. Parce que Matthieu relie clairement la question du pardon authentique ici à la vie maritale, versets 1 à 10, célibataire 11 à 12 et à l'enfance 13 à 15. Et vous allez voir à travers le message. Et je pense que Matthieu savait de quoi il parlait. Vous savez que Matthieu était quelqu'un de rejeté. Il n'a-t-il qu'un vu ici la série de Chosen? C'est intéressant. Puis moi, je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là. Tu sais, je le savais, les publicains n'étaient pas populaires. Mais là, des fois, quand c'est imagé de même, puis je veux dire, Matthieu, là, il n'était pas comme dans la compagnie apostolique, là. Hey, on contacte ça, là, frère, puis. Non. En fait, la façon que l'auteur le dépeint, c'était plutôt à mener une scène, on voit Pierre, qui sont autour du feu, puis. Tu sais, Pierre, qui a le tour de dire les choses directes, tu sais. Il est pas doux, là. Il dit, t'es un traître, puis là, puis, tu sais, il dit à la Pierre, là, tu sais. Vraiment pas subtil. Mais, c'est ça. Matthieu qui a écrit ce qu'on était... Ben, c'est l'écrivain, on sait, là, c'est le Saint-Esprit, mais on sait que la personnalité des écrivains bibliques transparaît aussi dans les écrits. Et Matthieu savait c'était quoi avoir des relations qui sont pas idéales. Et c'est une chose que j'aime dans la série dont je viens de parler, c'est que je trouve que c'est bien souligné ça. Et on voit beaucoup dans Matthieu des gens rejetés, des gens qui n'étaient pas compris, puis tout ça, puis qui sont accueillis par Jésus. D'ailleurs, ceux qui connaissent l'appel de Matthieu, c'était simplement, ça nous dit dans la Bible, il était au poste de péage, là où est-ce qu'il collectait les taxes. Et Jésus fait simplement l'appeler comme ça, puis il vient. Mais premièrement, c'était dur à croire pour les autres disciples, parce que même, encore là, je réfère à ceux qui ont vu la scène, Pierre va le voir et dire, t'as pas que tu fais là. Pierre, mais tout le temps le tour, hein? Mais c'est lui qui va, Jésus, t'appelles pas la bonne personne, là, t'sais, t'es sûr? Mais ce qui est encore plus stupéfait, c'est que Matthieu lui-même a de la misère à le croire. Qui, moi, t'sais, puis il dit, Matthieu, fils d'Alphée, puis t'sais, excuse-moi s'il survire de bord, t'sais, vraiment moi, mais là, Matthieu, fils d'Alphée, t'sais, il l'appelle par son nom, comme la Bible dit, hein, puis il va, puis il suit. Mais tout ça, ça montre comment. Puis en passant, c'est pas le seul. Je pense que Simon, pas Simon, mais oui, c'est un autre Simon, voyons, le Zélote. Les Zélotes, ils étaient pas reposants, là. Les autres, là, ils voulaient, c'était un peu comme. Ceux qui connaissent l'histoire québécoise, vous savez, c'est qui les Felkistes, le FLQ? Ben, Simon, c'est le Felkiste du groupe des apôtres. Tu sais, en gros, c'est ça. Tu sais, ils voulaient prendre le pouvoir par la force. Le FLQ, c'était ça, là. C'est connaître le pont Pierre-Laporte, là. Vous irez voir, là. Vous allez voir sur le pont, vous allez connaître l'histoire. Non, mais là, c'est comme pas pour les propos maintenant, mais juste pour dire, les gens que Jésus recevait, c'était pas des gens qui étaient les plus populaires, puis étaient donc beaux, puis ils fitaient donc. C'était du monde qui fitait pas pantoute. Non seulement ils fitaient pas avec la société, ils fitaient pas non plus les uns avec les autres. Mais Jésus faisait de quoi avec ça, de beau? Et c'est ça qu'on voit, la miséricorde qui triomphe du jugement. Il aurait pu tous les juger, puis dire, toi, t'es un petit. T'es... Mais la miséricorde a triomphé. Et je pense qu'il y a ça vraiment pour nous dans le texte qu'on va considérer aujourd'hui. Et je crois que la différence dans la vie personnelle de Matthieu, c'est qu'il est arrivé au point où est-ce qu'il a cru et a accepté le pardon du Seigneur. Comme je vous dis, je pense qu'il avait de la misère à y croire, mais il a fini par y croire, puis il l'a accepté. Puis, à la suite de ça, il a vécu à la lumière selon ce divin pardon qu'il avait reçu par Jésus-Christ. Il a laissé ça diriger sa vie et ses relations interpersonnelles. Il ne s'est pas laissé définir parce que les gens disaient de lui, parce que la société. Il s'est laissé définir par son Sauveur, par son Créateur, qui a tout refait. Il s'est laissé définir par cette miséricorde qui triomphe du jugement. Je viens de parler pas plus tard que là, à peu près une heure avec un frère qui me disait « J'ai quelqu'un qui me donne du trouble à la job. » Puis Satan se sort de ça pour dire « Ben, il a raison. » Puis ce qu'il dit, c'est vrai. Puis là, tu sais, je m'haïs moi-même avec ça. Mm. Puis il dit, ben, Seigneur, permet ça pour que j'accepte ce que je suis en Jésus-Christ. Tu sais, du coup, Satan, souvent, ce qu'il nous accuse, il a raison. Tu sais, quand Satan nous dit, t'es égoïste, ça, ben, moi, ben oui, c'est vrai, je suis égoïste. Je demanderai à ma femme à vous confirmer, OK? Mais quand il nous accuse, c'est pas l'idée, c'est pas vrai, puis tout ça, puis on essaie de tenir dans notre propre justice, parce que mes amis, on tiendra pas longtemps. La question, c'est pas se défendre devant les accusations de Satan avec notre propre justice, puis essayer de se justifier, c'est de répondre avec le sang de l'agneau, avec la parole. Et ça, mes amis, c'est ça notre justice devant Dieu. Dire, oui, t'as raison, Jésus a payé pour ce péché-là. T'as raison, mais c'est pas mon identité. C'est un péché, mais c'est pas ça que je suis. Maintenant, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça la beauté de ce qu'on va considérer ensemble. Plongeons ensemble avec trois endroits où la miséricorde triomphe du jugement. D'abord, dans le mariage, vous avez vu le passage avec les pharisiens ici qui vont le demander. Et on va pas relire, on va relire des passages, des versets un peu tantôt, mais vous avez sûrement déjà entendu la phrase « Le pardon est l'oxygène du couple ». Avez-vous déjà entendu cette phrase? Un couple qui se pardonne pas, il manque d'air. OK? Et combien c'est vrai, c'est vital. Parce qu'il y a un endroit où est-ce que le pardon est tellement important, où est-ce que la miséricorde doit triompher du jugement, c'est bien dans le couple. Pourquoi? Parce que, puis en passant ici, dans l'ordre, c'est ce qui est mis en premier, je pense que c'est l'idée de préséance, l'idée du mariage. Mais pourquoi c'est important? Parce que de ça découle tellement d'autres, les relations avec les enfants, les relations avec l'Église, les relations, tu sais, on amène ça dans toutes ces autres relations, notre relation de couple. On voit ici l'importance de prendre soin du couple, mais j'aimerais mieux, puis encore, regardez, ici quand je dis prendre soin du couple, de même vous qui êtes jeunes, on pourrait dire vous qui êtes mariés, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il ferait grâce aux uns. Mais encore plus que prendre soin l'un de l'autre, dans l'humilité, c'est Dieu, laissez Dieu prendre soin de nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Comment? Dans l'humilité, dans nos rapports mutuels, en confessant nos péchés, en étant honnête par rapport aux péchés. OK? Ça nous dit dans Jacques, au chapitre 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste est d'une agissante du juste est d'une grande efficacité. » Donc, l'humilité dans nos rapports mutuels, dans un couple, la foi dans la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu est plus grand que les problèmes qu'on vit? Est-ce que Dieu est plus fort que les nœuds qu'il peut y avoir, comme on parlait ce matin? Et ça, c'est exprimer ma confiance dans la suffisance de Dieu. N'est-ce pas qu'on lit, et Paul qui le dit, hein? « Ma grâce te suffit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, s'il y a un endroit qu'on se rend compte comment qu'on est faible, comment qu'on échoue, puis qu'on échoue encore, c'est bien le mariage. Mais Dieu dit, je vais me glorifier à travers ça. Dans la faiblesse, je me glorifie. Et aussi, c'est croire la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur ce qui nous arrive et il poursuit son plan bienveillant, qu'on le comprenne ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on aime ça ou non. Même si on ne comprend pas les difficultés, puis on a de la misère à les accepter. Mais c'est de voir Dieu au-delà, au-dessus de ces relations-là, comme étant présent et proche de ceux qui l'invoquent. Maintenant, parlant du mariage, c'est important de comprendre ici comment Jésus répond à... En passant, là, si vous étudiez un peu là, les commentaires, il y avait une controverse rabbinique par rapport à la question qu'il posait. Il posait à Jésus la question en tant que rabbin, parce qu'eux autres, ils chicanaient entre eux autres là-dessus. Okay, il y avait les écoles, là, des écoles de pensée là, parmi les rabbins. Puis ils n'étaient pas tous d'accord avec la question du divorce. Fait que là, ils demandent à Jésus c'est quoi qu'il pense. Jésus, il passe la controverse des rabbins parce qu'il ne répond pas à ça directement. Il passe même plus loin que Moïse avec l'idée de la lettre qu'il avait permis. Puis c'est une lettre qui avait été permise pour encadrer la méchanceté du cœur. Okay, il dit c'est à cause de la méchanceté de votre cœur. C'était pas le plan initial. Puis Jésus s'en va jusqu'au fondement, au principe fondamental du mariage établi dès le commencement. C'est ça qu'il dit, au commencement. C'est quoi ce principe-là? L'amour. Le mariage, c'est à cause que Dieu est amour puis qu'il a uni deux êtres ensemble dans l'amour. Jésus passe toutes les controverses puis s'en va à la base, la chose la plus importante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et ton prochain ou ta prochaine comme toi-même. C'est ça la base de toutes les relations. Et regardez comment notre société est détruite et pensez à ça. N'est-ce pas vrai qu'en ce moment, Satan, et ça fait plus... Ça fait pas juste quelques années. Ça fait longtemps que Satan veut attaquer tout ce que Dieu a fait. Famille, le couple, la famille, les rôles de chacun. Les rôles des parents, les rôles des enfants, les rôles des hommes, les rôles des femmes. Tout ce qui est de Dieu, qui est établi par Dieu, selon son ordre, sa bonne volonté, Satan essaie de tout détruire ça. Et comment il fait ça? En mettant au lieu de l'amour, mettre l'égocentrisme, mettre l'indifférence, mettre toutes sortes de choses... Et ça détruit les relations. Donc, pour ça que c'est tellement important. Quand Jésus dit au commencement, il n'y en était pas ainsi. Comment c'était? C'était la simplicité de deux êtres qui s'aiment. Quelle excellente façon de répondre aux différences, aux disputes qui peuvent arriver. Tu sais, dans un couple, on peut se dealer l'un avec l'autre selon la loi. Ah, t'es pas comme tu devrais. Ah, mais toi, t'as vu, t'es pas comme... Puis c'est quoi? On finira jamais de même. On part avec le là pour finir jusqu'au jardin d'Éden. Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi, c'est le serpent. Comprenez-vous, on va pas nulle part avec ça. Mais, si on traite nos différends, nos disputes, à la lumière de l'amour de Dieu, qui ne change pas, qui est immuable, et qu'on répond à la lumière de ce que Dieu a fait, ça va tout changer. À cause qu'on est aimé, on peut aimer. À cause que la croix du calvaire qui nous a réconciliés, nous, des pécheurs qui ne voulaient rien savoir, on peut être réconciliés. Un couple que ce n'est pas toujours évident de passer. C'est vraiment l'amour de Dieu qui est... C'est toujours selon la vérité, l'amour de Dieu, là, mais cet amour est toujours ce qui va permettre à un couple d'avancer malgré les difficultés. Parce que c'est avec cet amour-là qu'on va pardonner, parce qu'on a été pardonné. Et là, c'est intéressant la réplique que les disciples disent. C'était peut-être Pierre qui parlait, c'était juste ses disciples. On ne sait pas c'est qui, mais il s'est dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard, verset 10, à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Savez-vous que par cette réplique des disciples, ils révélaient la dureté de leur propre cœur par rapport à ce plan original? C'est-à-dire, s'il n'est pas avantageux de se marier, c'est-à-dire, le plan original de Dieu n'est pas bon. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est Dieu qui avait, au commencement, Dieu, hein, il a mis dans le jardin un homme et une femme, il les a unis. Mais là, il dit, hey, non, c'est pas bon. Voyez-vous comment il parlait pas selon une intelligence renouvelée? Il comprenait pas le plan original et bienfaisant de Dieu. Ça m'amène au deuxième point, parce que là, il y a la réponse de Jésus à tout ça. Et là, ça nous amène au verset 11. Donc, il leur répondit. Donc, Jésus répond à ses disciples concernant la question, il n'est pas avantageux de se marier. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux-là à qui est donné. Puis ensuite, il continue en disant, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui sont devenus par les hommes, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. » Donc, il y a comme trois catégories. « Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Deux fois, Jésus fait référence à leur compréhension. Ces deux versets, c'est la réponse de Jésus à ce que les disciples viennent de dire, qui n'est pas avantageux. Parce que d'autres, ils raisonnaient dans leur raisonnement humain que ce n'était pas idéal de se marier puisque ça nous contraignait. Il faut se pardonner, il faut se réconcilier, c'est pas évident comment qu'on va... Je veux dire, c'est se donner du trouble, autrement dit. Il n'est pas avantageux, c'est donc se donner du trouble de se marier. Et ceux qui sont mariés disent quoi? Amen! Non, mais n'est-ce pas une vérité? C'est la vie, là, je veux dire. Ceux qui sont pas mariés disent, ben non, moi, ça va être mieux, vous allez voir. Dream on, comme ils disent. Mais ça, c'est la pensée du cœur humain endurci qui pense comme ça, il n'est pas avantageux. Donc, la réponse de Jésus ici s'adresse à cette incompréhension. Il parlait de choses qu'il ne comprenait pas. Il croyait comprendre, mais il ne comprenait pas. Fait que Jésus, c'est pour ça que deux fois, il dit, tous ne comprennent pas. Puis tous, là, ça comprenait eux autres. Ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas au juste? C'est quoi ça veut dire dans le contexte, là, quand Jésus dit « tous ne comprennent pas » Je pense que ça nous renvoie au verset 8, le plan original de Dieu. « Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas le commencement, le plan original de l'amour de Dieu. Et donc... C'est pas tous qui comprennent à quel point ce fondement d'amour et de vérité est vital pour le mariage. C'est pour ça que certains décident de rester dans le célibat pour le royaume de Dieu parce qu'ils se disent, ben c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices émotionnels, c'est de l'énergie. Donc certains le deviennent d'eux-mêmes. Certains, c'est de naissance, à cause de certaines conditions, ils vont pas se marier. Certains vont décider d'eux-mêmes. OK, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent se vouer complètement à Dieu. Puis si vous voulez un commentaire inspiré là-dessus, Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 7, je vais juste vous lire un petit peu. Bon, dans le contexte, c'était les pères qui décidaient de donner leur fille ou non, puis tout ça. Mais OK, je vais commencer à partir du verset 29. « Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court et que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui... pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure du monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme vierge et celle qui n'est pas mariée. S'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienveillant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. C'est un commentaire inspiré pas mal sur ici ce qu'on est en train de considérer dans Matthieu. C'est pas une condamnation du mariage. C'est pas un mépris non plus du mariage, parce que les versets suivants, ça dit qu'on se marie. OK? Mais Paul, il dit qu'il donne son avis là-dessus, puis il croit aussi avoir l'Esprit de Dieu. C'est quoi l'idée? C'est que c'était des temps de persécution. Lorsque Paul écrivait, c'était des temps difficiles. Puis déjà que c'est difficile la vie de couple, en plus d'avoir des conditions difficiles de persécution, puis tout ça, il dit, ben. Si le Seigneur vous dirige de même, c'est avantageux. Et c'est un fait indéniable que la vie de couple, la vie de famille, c'est plus compliqué que la vie célibataire. C'est juste de même. Il y a plus de monde, c'est plus compliqué, ça fait plus de problèmes. OK? Mais on a besoin de comprendre qu'on ne peut pas prêcher d'être célibataire. Tout ça, parce que ça, c'est une hérésie qu'il y avait aussi à l'époque et qui est dénoncée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments qui a été créé par Dieu et qui soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, Paul dénonce ça. On ne doit pas prêcher le célibat, mais donc, Comment on doit comprendre ça? On doit comprendre ça simplement par le fait que le retour au plan original de l'amour et tout ça, c'est l'idéal. Mais vu qu'on est des humains, que c'est pas dans notre nature humaine, c'est plus compliqué. C'est pas le problème de Dieu, c'est pas de sa faute. C'est de notre faute, parce que nous, on a le cœur endurci. Fait qu'il faut juste être conscient de ça. OK? Maintenant, je veux dire une autre chose par rapport à la miséricorde qui triomphe du jugement, par rapport à la question du mariage ici. C'est-à-dire que on a besoin de se pardonner les uns les autres. Attendez un peu, ici. OK. Non, attendez, j'ai sauté. Je parle plus du mariage, je parlais du célibat. Excusez, OK, c'est sûr que ça ne marchait pas. On a fini de parler du mariage, là je parle dans le célibat. Une autre chose que je veux amener, les personnes seules, il y a un défi supplémentaire par rapport aux besoins de pardonner. Un défi unique par rapport aux blessures, parce que tout le monde, c'est le lot des relations humaines de se blesser. OK? On se blesse les uns les autres dans le mariage, dans la famille, dans une église, OK? Mais les personnes seules, je vais juste amener un point ici. Vous, avec vos blessures que vous avez un défi supplémentaire, OK? Pour dealer avec. C'est que vous êtes beaucoup plus seul pour dealer avec. Et ça, c'est plus un défi. Ma femme et moi, on a remarqué, à travers le temps du ministère, les personnes seules, que ce soit hommes et femmes, ont tendance, une de ces deux tendances qu'on voit en général, pour les femmes, qui ont plus tendance, qui ont besoin de ventiler, de parler par rapport à leurs problèmes, tu sais, quand elle est seule, c'est plus difficile, dépendamment de la situation, des fois, elle est plus entourée, puis ça, souvent, ça va donner plus d'angoisse, OK? C'est un défi supplémentaire parce qu'ils n'ont pas un mari proche à qui parler de ces choses-là. Chez l'homme, qui est différent, l'homme, souvent ça va donner au contraire l'huître. Puis là, il devient barré à double tour. Il ne parle plus. Il n'est plus habitué de parler. Il n'y a plus une femme pour y tirer vers du nez et dire « Comment tu te sens, chérie, par rapport à ça? » Il a perdu l'habitude. Non, mais c'est un défi réel. C'est pas moi qui invente ça, c'est juste c'est le fait d'être seul, c'est un défi. Parce que, OK, ça parle d'un avantage, on a plus de temps pour le Seigneur, mais au niveau émotionnel, puis parce qu'il y a des affaires qui peuvent nous avoir fait mal, puis là, on est pogné tout seul avec ça, maintenant, on peut juste décider de mettre la clé là-dessus, puis pas en parler. Ou une femme, elle sait plus trop comment parler, puis ça peut... Les hommes, les femmes, dans leur nature spécifique, ça donne un défi supplémentaire. OK? Ceci dit, c'est pas automatique que tout... est résorbé par le mariage. On a besoin toujours de communication ouverte et vivante, là, de professer la vérité dans l'amour. Mais je veux dire quelque chose ici, ce qui est merveilleux dans le plan de Dieu, pour les chrétiens qui sont seuls, qui ne sont pas mariés, Dieu vous a donné une église. Dieu vous a donné des frères et sœurs en Jésus-Christ pour vivre cette miséricorde qui triomphe du jugement. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un avec qui partager le quotidien. Vous avez des frères et sœurs à qui vous pouvez être ouverts et authentiques pour veiller les uns sur les autres, comme ça dit dans Hébreux 10, 24. Pour confesser, comme ça dit dans Jacques 5. Pour s'accueillir. Vous savez, des fois, quelqu'un a quelque chose à dire, puis la meilleure chose, c'est juste de l'accueillir puis de ne pas dire un mot. C'est juste ça que la personne avait besoin. Des fois, quand on parle, c'est quelque chose de trop. Pour prendre une parole de Jésus, ce qu'on rajoute, c'est du malin. Des fois, on fait juste accueillir la personne, dire... OK, tu avais besoin de partager ça, je vais prier pour toi. Puis juste d'avoir de la compassion, puis tout ça. Une église, c'est la beauté avec l'église. On a une famille spirituelle. Donc, vous n'êtes pas seul, on ne devrait certainement pas s'éloigner de tout ça dans une église, on devrait plutôt le rechercher, parce qu'on trouve beaucoup de miséricorde qui triomphe du jugement. Et ça m'amène au troisième point, non seulement... La miséricorde qui triomphe du jugement dans la famille, dans le célibat, mais ensuite versets 13 et 15, dans l'enfance. Regardez verset 13. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Et regardez la réponse de Jésus. Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et leur imposa les mains et partit de là. OK, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus a des enfants ici qui viennent, et comme tellement souvent Jésus enseignait des choses par rapport à ce qui est en train de vivre. Et non seulement ici, Jésus, dans le texte qu'on considère aujourd'hui, a enseigné ses adversaires, sont venus le voir, puis leur répondu par rapport au plan original de Dieu, mais aussi enseigné ses disciples, hein, avec la réponse qu'il a donnée qu'on vient de considérer. Puis ici encore, il les enseigne. Il a enseigné les disciples sur leur cœur dur dans le mariage, puis là, il les enseigne par rapport à leur cœur dur face à l'enfance, la foi enfantine. C'était quoi la réaction des disciples? Ils repoussaient les enfants. Jésus, ici, avait quelque chose à leur enseigner sur cette humilité qu'il y a chez les enfants. C'est-à-dire que on voit tout le temps que Jésus poursuivait un but pédagogique. Il voulait toujours enseigner quelque chose par rapport aux situations, les circonstances qui permettaient dans leur vie pour les façonner, les renouveler, les restaurer dans leur façon de penser. Parce qu'on voit comme ça ici que les disciples avaient besoin d'apprendre. Au lieu de repousser, il aurait dû voir une occasion d'apprendre de ces enfants-là qui venaient vers Jésus. Pourquoi des enfants comme ça allaient vers Jésus? Qu'est-ce qu'il y avait à apprendre de ça? Il y avait une disposition, une attitude, une simplicité enfantine. Il allait vers Jésus et c'est en toute simplicité de cœur. N'est-ce pas qu'on a vu ça dans le message? Sais-tu la semaine dernière, la foi enfantine, c'est un trésor. Qu'on ne perde jamais la simplicité de la foi en Dieu. Pas compliqué, juste comme un enfant dépend de ses parents. Et perdre ça, mes amis, c'est perdre un trésor. Et malheureusement, plus on vieillit, puis qu'on devient habile à raisonner, qu'on devient de plus en plus indépendant, on perd cette foi enfantine. Et Jésus voulait leur rappeler l'importance de ça. Il dit, laissez venir et n'empêchez pas, non seulement pour nous, mais pour ceux qui sont comme ça. Et ça, c'est un premier niveau de leçon que je veux souligner, mais je veux en souligner aussi un autre par rapport à la miséricorde qui triomphe du jugement. Je parlais de blessures tantôt relationnelles dans un couple, pour une personne seule aussi. Mais savez-vous qu'aussi, on a des choses qu'on a peut-être besoin de pardonner par rapport à des blessures qui remontent à loin, à notre enfance. Et savez-vous, souvent, c'est les plus douloureuses parce que souvent, elles sont profondes et ancrées. Et comme toute blessure, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans l'église, ou que ça remonte à des choses de notre tendre enfance, toute blessure qui n'est pas guérie par la grâce de Dieu continue à faire mal. C'est l'appel de Dieu qui nous dit « Viens à moi ». Ça te fait mal, c'est parce que tu ne m'as pas laissé le guérir. Puis la façon de savoir si je vous en parle de cet événement-là, de cette situation-là, que peut-être vous aviez 6 ans à l'époque, si ça vous fait encore mal, c'est parce que vous ne l'avez pas encore amené au pied de la croix. Et savez-vous quoi? Il n'y a jamais trop tard pour amener quoi que ce soit au pied de la croix. Parce qu'il y a des gens qui ont des grands, des choses qui ont développé, des angoisses, des réactions aux choses. Puis quand tu regardes, des fois, ça remonte à bien loin avant, parce qu'ils n'ont simplement pas amené ça à Dieu. Par exemple, ils se sentent rejetés, jamais corrects, tu sais, parce que des fois, les parents, ils disent « Ah, t'es jamais correct », puis ils chialaient après ci, puis ça. C'est quoi? Faut qu'on amène ça au pied de la croix, qu'on pardonne ceux qui nous ont offensés de même, puis qu'on remette ça à Dieu. Et Dieu donne la grâce pour que, au lieu d'être arrêté par ça, que ça devienne une planche de salut, un tremplin qui nous fait avancer plus loin. Là, je ne parle pas de faire de la psychanalyse, là. Ça n'a aucun rapport, là. Certainement pas. Mais je veux dire, il y a des affaires qu'on a vécues quand on était jeune, puis je veux dire, si je vous en parlais là, ou si vous m'en parliez, ça va nous chercher en dedans. Ça, c'est Dieu qui nous appelle à venir avec ça à la croix du calvaire. Alors, de grâce, ne repoussons pas cette simplicité de l'enfance, mais allons à Christ comme des enfants et laissons ceux qui veulent aller à lui tel que ça aussi. Ayons la même attitude qu'un enfant aussi par rapport aux offenses. Un enfant, c'est facile à pardonner. Il y a eu quelque chose, là, c'est pas compliqué, OK. Qu'on soit pareil comme adulte, lent à se mettre en colère, puis qu'on soit lent à parler, lent à se mettre en colère, puis, non, là, en tout cas, ça, c'est par rapport à écouter, là, vite à écouter, mais vite à pardonner. Je termine avec une simple pensée, après-midi. Dieu connaît avec quoi vous êtes en train de lutter en ce moment. Chacun ici, Dieu connaît exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et si vous avez été sensible à sa voix, la voix du Saint-Esprit, il vous a pointé quelque chose. Est-ce que il y a quelque chose, là, si vous arrêtez, Seigneur, tu as mis le doigt sur quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que Dieu a mis le doigt dessus? Mon appel, c'est pas compliqué. C'est simplement faire comme ferait un enfant, c'est d'aller à son père. Dans la simplicité de la foi, en croyant, en agissant selon le fait que la miséricorde triomphe du jugement. Je peux toujours aller à mon père pour être reçu, réconcilié, accepté, aimé. Et je vous invite à faire simplement ça en ce moment. Que ce soit des blessures que vous pouvez avoir peut-être dans le domaine du mariage, du célibat, de l'enfance ou d'une autre relation. Ici, c'est celle que le Saint-Esprit nous a donnée dans le texte de Matthieu, mais ce n'est peut-être dans d'autres domaines. Et dites-vous que ces besoins ont tous été comblés à la croix. Et donc, on peut en être libéré. Au lieu d'en être esclave, de se laisser détruire par ces choses, on peut aller à Christ, qui est la vérité qui affranchit. Merci Seigneur pour le fait que tu dis toujours la vérité et que tu nous aimes en nous disant ces choses. Et oui, si on était attentif, on a entendu ta voix après-midi. Tu es un Dieu personnel, tu parles à tes enfants, tu dis que tes brebis entendent ta voix et qu'elles te suivent. Alors Seigneur, on veut juste répondre après-midi à ce que tu nous as montré, ce sur quoi tu as mis le doigt, en disant, Seigneur, c'est vrai, ça me fait encore mal cette affaire-là. J'ai pas pardonné cette affaire-là. Mais je veux l'amener au pied de la croix du calvaire, là où tout est pardonné. Là où le pardon est possible. Là, à cause qu'on a été pardonné, on peut pardonner. Ah, Seigneur, fais cette œuvre de restauration. Il y a des choses dans les cœurs que juste toi vois. Mais Seigneur, certainement, c'est aussi juste toi qui peux les restaurer, qui peut faire des belles choses, même avec des vies qui ont été difficiles, des blessures profondes. Rien n'est trop grand pour toi, Seigneur. On te remercie pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous voulez...